BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 1 minute. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business pour les experts, avec autour de la table Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, Philippe Mutrici, directeur des études de BPI France, et Thomas Grébin, responsable du programme macroéconomie et finances internationales au CEPI. Alors allons-y, on a un peu défloré le sujet dans la première partie de l'émission, mais je voulais qu'on s'arrête sur les indicateurs de conjoncture qui ont été publiés. Alors, ce matin, on a une palanquée d'indicateurs sur le climat des affaires dans différents secteurs publiés par l'INSEE. Hier, on a eu un PMI qui a tiré la sonnette d'alarme au mois de mai sur les perspectives des directeurs d'achat. La Commission européenne et le FMI qui, tous les deux, ont dégradé les perspectives de croissance de la France. Alors, la question est très simple. Allez, je commence par vous, Philippe. Est-ce que il faut craindre un risque de récession en France?
Alors écoutez, j'ai assisté ce matin à un débat extraordinaire. Je dis à tout le monde, il faut le regarder en replay. C'était sur une chaîne BFM Business. Et c'était Raphaël Legendre face à Emmanuel Lechypre. Voilà. Bah, Raphaël, j'étais complètement de votre côté. Franchement, le risque de récession, il est évoqué parce que notamment l'INSEE a publié un mauvais chiffre pour le premier trimestre qui a surpris tout le monde.
Croissance zéro.
Croissance zéro, là où la Banque de France attendait 0,3. Et les prévisions de la Banque de France corrèlent très très bien avec les prévisions du PIB. Donc ça, c'est effet de surprise. Dans cette explication de PIB à zéro, vous l'avez dit très justement ce matin, il y a un gros effet exportation qui ne sont pas arrivés et qui jouent.
Les livraisons d'Airbus, effectivement, qui tardent un peu.
Mais qui tardent, il y a des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, notamment sur les moteurs, etc. Donc c'est un peu, je dirais, conjoncturel et c'est pas forcément un reflet de l'ensemble de l'économie française. J'ajouterai un petit point. Le chiffre de l'INSEE est absolument fiable, je ne remets pas en cause, mais je rappelle que c'est un chiffre provisoire et qu'il arrive, enfin même régulièrement, hein, le chiffre définitif est rarement le chiffre provisoire, il peut être corrigé
à la hausse, parfois assez sensiblement.
La révision moyenne est de 0,2%.
Voilà.
Hein, donc quand vous avez un zéro, peut-être Jean-Marc. Que dans deux ans, peut-être qu'on dira que c'était moins 0,2 ou plus 0,2.
Exactement. Voilà. Moi, alors, je suis clairement du côté plus 0,2. Ce sera peut-être plus 0,1. Mais je suis clairement du côté plus 0,2.
C'est ce que dit votre étude hein, cette semaine, BPI France, Rex et Code sur la trésorerie des entreprises. Vous êtes plutôt finalement optimiste.
La deuxième source d'inquiétude, c'est les PMI qui sont sortis hier et qui seraient les plus mauvais, sont les plus mauvais depuis le
Covid. Depuis le Covid.
Bon, on n'est pas dans l'année du Covid, on ne va pas avoir moins 7% de croissance à la fin de l'année. Enfin, on ne peut pas comparer, même si Jean-Marc dit que c'est important que le baril peut continuer de monter. La crise énergétique qu'on a aujourd'hui n'est même pas au niveau de celle de l'Ukraine. L'électricité en France n'a pas bougé. Le gaz, c'est plus 50%, c'est beaucoup, mais c'était plus 900% en 2022. Et donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et effectivement, l'enquête qu'on a sortie, alors, elle est un petit peu plus ancienne que les PMI, je reconnais, donc les choses ont pu changer, mais elle dit quoi? Elle dit que pour 85% des chefs d'entreprise se disent capables d'absorber avec leur trésorerie les conséquences du conflit s'il dure quelques mois. Et en fait, tout est dans le quelques mois.
Oui.
Donc, quelques mois, c'est combien? C'est deux. À deux, on était consensus d'économistes. À deux, il y aurait quasiment pas eu de conséquences sur la croissance mondiale. On est au-delà de deux. On arrive à trois, quatre mois, peut-être même plus jusqu'à l'été. C'est ce que disait le Premier ministre hier. Donc, il va y avoir des conséquences économiques négatives. Mais de là à dire qu'on entre en récession, moi, je trouve que c'est vraiment prématuré.
Bon, Jean-Marc.
Alors d'abord sur les indicateurs, le PMI, c'est un indicateur qui ne marche pas pour la France. Tous les conjoncturistes le savent, on continue de s'exciter chaque fois qu'il sort. Je ne comprends pas pourquoi, quand vous regardez le PMI avec les indicateurs d'activité qui sont publiés ensuite, il n'y a aucune corrélation. Donc PMI...
Allez, à la niche. Hop, ça c'est fait.
Première chose. Deuxième chose, indicateurs qui sont sortis ce matin et l'enquête de BPI France qu'évoquait justement Philippe montre que ça bouge pas beaucoup, qu'on a de la résistance. Et quand vous discutez avec des gens en entreprise, on voit bien qu'il y a une résistance que je trouve moi assez impressionnante. Hein. Dès le 28 février, les entreprises ont commencé à réajuster, à réaffecter leurs forces, à redéployer, à voir là où elles pouvaient économiser un peu, là où elles pouvaient accélérer. Enfin, franchement, je pense qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas cette réactivité. Hein, mais les entreprises se sont prises.
Elles ont gagné en vélocité.
Se sont prises de telles.
La permacrise, ça entraîne.
Complètement d'accord. Si vous prenez Covid, invasion de l'Ukraine, crise d'approvisionnement, flambée des prix de l'énergie. Ça fait une série de crises. Il y a 10 ans, il y avait un mot que les experts en management employaient à tout bout de champ, qui était agilité. Alors, c'était vraiment le mot
à la mode. Ad nauseam.
C'est devenu une réalité dans beaucoup d'entreprises. Et donc, je pense qu'il y a une résistance. Alors, si on continue de manquer, si on manque effectivement de pétrole, je pense que ça va devenir beaucoup plus compliqué. Mais pour l'instant, on a une résistance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas perdre quelques dizaines de points de croissance. Hein, et quand on a une croissance qui est à 1%, quand on se prend un choc, c'est évidemment plus ennuyeux que quand on a une croissance à 3 ou 4%. On voit bien que pour la Chine, c'est moins dramatique que pour la France. Parce que quand on a 1% et que vous prenez un choc, vous risquez de tomber à 0,5. Vous n'êtes pas très loin de zéro.
Oui.
Pour l'instant, il y a de la résistance.
Bon, et en même temps, j'ai envie de dire, si on a une croissance de 0,9 ou de 0,7 ou même de 0,5, est-ce que ça va changer fondamentalement la phase de l'économie française?
Ça fait juste, de laisser Thomas, ça fait même des milliards de moins dans les caisses de l'État.
C'est budgétaire. Oui. D'abord et avant tout.
Je rappelle que quand on a commencé à calculer le PIB il y a 3 siècles, c'était pour voir combien l'État pourrait prélever d'argent. Hein. Moins de richesses produites, ça veut dire moins d'argent dans les caisses de l'État, et ça, on n'y coupera pas, mais ça rejoint la première partie de la discussion que nous avons eue.
Un PIB à 0,5, c'est 15 milliards à trouver dans nos dépenses, effectivement. Comme à récession ou pas.
L'économie française est résiliente, mais maintenant, elle est quand même très, très faible. Enfin, la croissance est très faible.
Oui, c'est pour ça qu'elle ne bouge pas beaucoup. Oui,
une croissance très faible, ça veut dire une dégradation du pouvoir d'achat. Ça veut dire des carnets de commandes moins remplis pour nos entreprises. Ça veut dire aussi une dégradation de la situation de l'emploi. Donc ça aussi, c'est quand même...
Ça, l'indicateur n'est pas bon ce matin.
C'est quand même une mauvaise nouvelle. Et puis bon, alors si on veut être plus positif, on peut se comparer à notre grand voisin allemand, où là, il y a les prévisions de croissance ont presque été divisées par deux, et c'est quand même relativement surprenant. Alors même qu'il y a un plan de relance sur les infrastructures ou sur les dépenses militaires, on voit que la croissance allemande pourrait être autour de 0,6 points de PIB à l'horizon 2026, donc moins que la croissance française. Donc là aussi, c'est quand même, on a notre principal partenaire économique qui, alors qui n'est pas en récession, même si peut-être
il y a deux ans et demi de croissance négative.
Qui est quand même extrêmement fragilisé. C'est aussi le cas pour, on regarde l'économie italienne.
Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour nous.
Évidemment que c'est pas une bonne nouvelle pour la zone euro. C'est une mauvaise nouvelle. L'économie italienne aussi, on a une croissance autour de 0,6, 0,7. Donc aussi plus faible que la croissance française. Donc on est quand même dans une zone euro où il y a une croissance qui est relativement atone, et en effet, on est encore plus fragile si le pétrole, alors je ne sais pas s'il devait aller à 150 ou 200 dollars, évidemment, ça dégraderait encore plus les perspectives. Donc il y aura une difficulté sur la demande et sur les services, et puis on est aussi face à une industrie, notamment manufacturière, qui est très très fragile. Et ce n'est pas avec une demande à tonnes qu'on va booster les ventes domestiques.
Étonnamment, le climat des affaires dans l'industrie, là, au mois de mai, prend 2 points, est à 102. On peut expliquer ces indicateurs de l'INSEE. À 100, c'est la moyenne historique. Si vous êtes sous les 100, c'est plutôt que ça ralentit. Si vous êtes au-dessus, c'est que ça accélère.
Exactement.
Bon, là, c'est 102, l'indicateur, ce matin.
Je voulais revenir justement sur ce point-là, sur l'industrie, et puis sur deux autres qui sont dans notre enquête. Si on était en entrée de récession, on n'aurait pas un maintien de l'investissement des TPE-PME. Or, c'est ce qu'on voit, nous. C'était notre surprise.
Normalement, un chef d'entreprise sur deux.
Oui, c'est ça. Et normalement, ça devrait chuter. Et l'autre chose qu'on ne voit pas, c'est l'infléchissement des indicateurs de trésorerie. Donc, j'ai cité tout à l'heure celui sur est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour passer la crise. Mais ça, c'est un indicateur. Mais il y en a un autre qui est l'indicateur moyen, enfin, de sa trésorerie globale. Or, crise Iran, et sur celui-ci, il aurait dû aussi pour l'avenir, perspective de trésorerie, chuter. Or, il augmente. Donc, je pense que je suis complètement d'accord avec l'analyse de Jean-Marc, et une robustesse de ces entreprises, avec une nuance importante que je vous souhaite aussi apporter, qui est la nuance sectorielle. Alors, dans les transports, effectivement, c'est la catastrophe.
On peut faire le distinguo, hein.
Oui, dans les transports, il y a une partie des services à la personne, mais et encore, il y a aussi les taxis. Je ne vais pas faire de la liste des professions, il suffit de regarder le plan de gouvernement d'hier. Mais donc, on voit bien qu'il y a des métiers et des entreprises qui sont très concernées, mais dans l'industrie, pour y revenir, il y a plutôt des perspectives de croissance importantes pour plein de facteurs. Il y aura le facteur chinois, on y reviendra juste après, mais il y a déjà le facteur armement.
Oui.
Il y a le facteur armement. Et quand on, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder les statistiques de l'INSEE avec comme point de référence février 2020, avant Covid. On prend la production manufacturière en France. On regarde quels sont les secteurs qui sont au-dessus, au-dessous. Ben, l'automobile, on est à moins 17. Ça fait 5 ans que ça dure.
Oui.
C'est pas lié
à la crise au Moyen-Orient.
C'est pas conjoncturel, c'est structurel. C'est une transition qui est en train de s'opérer.
Moins 17% depuis la pré-Covid.
C'est ça. On produit en France moins 17% dans l'industrie automobile qu'en février 2020. Et vous prenez tous les secteurs, et il y en a qui sont largement au-dessus de zéro. La santé, pharmacie, c'est plus 22. Et l'aéronautique, qui était plutôt en négatif jusqu'à l'année dernière, est en train de rebasculer en positif au fur et à mesure que la montée en cadence revient. Il y a eu un petit trou d'air pour Airbus au premier trimestre. On l'a déjà dit, ça peut expliquer la baisse du PIB, la stagnation du PIB, la baisse des exportations en tout cas. Mais l'aéronautique se porte très bien, l'aéronautique, et le civil et militaire.
Et il me semble que l'aéronautique n'a pas encore rattrapé son niveau.
Juste à zéro.
Voilà
c'est
juste
ça.
À zéro.
Juste à zéro.
Et vu que la demande a augmenté, ça veut dire
exactement
que ça va soutenir l'activité
exactement
dans les prochains trimestres.
Merci.
Voilà, il y a des facteurs positifs qui jouent aussi. Il y a aussi des facteurs négatifs. Moi, j'ai dit résilience des entreprises, et je pense que c'est un point tout à fait majeur. Il y a même beaucoup d'entreprises qui partent à la casse. Et là, il y a un vrai souci.
70 000 défaillances l'année dernière, quand même, à niveau.
Il y a un point de vigilance, même si la trésorerie ne se porte pas trop mal pour l'instant. Voilà, il y a un vrai point de vigilance.
C'est très sectoriel aussi.
Oui.
Donc, est-ce que c'est dû à la crise? Ou est-ce que c'est dû à des phénomènes plus structurels?
C'est plus structurel.
Il y a les deux.
C'est plus structurel. On crée en France aujourd'hui deux fois plus d'entreprises en société qu'il y a 20 ans. Donc, dans une économie qui est concurrentielle et un peu schumpeterienne, même si elle n'est pas complètement. Schumpeterienne, ça veut dire qu'il y a un renouvellement permanent du tissu économique avec des entreprises plus modernes qui remplacent des plus anciennes. Il y a des phénomènes de génération aussi, hein, des chefs d'entreprise plus jeunes qui remplacent des chefs d'entreprise qui partent à la retraite.
Oui.
Et donc tout ça fait que c'est normal, quand on crée plus d'entreprises, d'en avoir plus qui disparaissent.
Aussi. Après, 70 000, c'est quand même un niveau élevé. Hein. Historiquement, c'est plutôt 50 000 par an. Arrive avec ça l'investissement chinois. Je me tourne vers vous, Thomas Grébin, vous êtes le grand spécialiste, auteur d'un rapport qui a fait beaucoup de bruit, du Haut Commissariat au Plan, alertant sur la menace de l'industrie européenne, justement, 55% de l'industrie européenne qui serait menacée par la déferlante des produits chinois. Et on a eu ce chiffre publié cette semaine, les investissements directs étrangers chinois en Europe ont augmenté de 67% l'année dernière. C'est absolument colossal. Alors, en volume, en montant, on parle de 16,8 milliards d'euros. Ça reste encore assez raisonnable. Mais quelle lecture vous avez de cette poussée chinoise, de ces investissements chinois qui s'enflamment en Europe ?
La première chose, c'est quand on regarde les pays qui bénéficient de ces investissements, le premier pays bénéficiaire, c'est la Hongrie. Notamment sur des investissements sur les batteries ou sur les véhicules électriques. Donc, il y a autour de 4 milliards d'investissements en Hongrie. C'est deux fois plus que pour l'économie française. Donc,
pour des raisons économiques ou politiques, BYD, par exemple, la première usine de fabrication de BYD en Europe, ce sera Hongrie.
C'est des raisons les deux. C'est-à-dire que le régime hongrois était traditionnellement beaucoup plus conciliant avec la Chine que la France. Et c'est vrai que la France, par exemple, a un discours ces derniers mois beaucoup plus dur vis-à-vis de la Chine. C'est pas quelque chose qui en soi encourage forcément les investissements en France. Et puis ensuite, les normes sociales, environnementales sont évidemment pas les mêmes en Hongrie que dans un pays comme la France. Faut se rappeler que depuis les années 2010, il y a eu près de 6 points de PIB de dépenses sociales en moins en Hongrie. Donc on parlait tout à l'heure des efforts budgétaires en France et des réformes nécessaires de la protection sociale. Bon, ben,
l'exemple hongrois. Thomas Grébin nous salue, nous vante l'exemple hongrois.
Non, je ne vante pas l'exemple hongrois, mais c'est juste qu'on est dans une zone euro où il y a en effet une concurrence qui n'est pas tout à fait égale. Quoi. Donc ça, c'est le premier point. Et après, il y a un point plus qualitatif, c'est sur la nature de ces investissements. Et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que...
On y voit clair, on arrive à voir... Une idée assez claire de ce sur quoi on investit, ils investissent.
Il y a les discours donc de nouvelles usines, donc ça c'est sur le papier c'est évidemment très positif. Il vaut mieux que les Chinois mettent leurs usines en Europe plutôt qu'ils exportent, parce que sur le papier ça permet de créer de la valeur, ça permet de créer des emplois sur nos territoires.
Comme ensuite, Toyota l'a fait avant eux en France par exemple.
Exactement, c'est ce que voulaient faire par exemple les États-Unis de Reagan, à l'époque c'était face au Japon, ils disaient ok, si vous voulez nous vendre vos voitures japonaises, vous devez les produire.
Et ce que fait Trump aujourd'hui. Hein.
Exactement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas bien si c'est seulement des usines d'assemblage et donc une grosse partie de la valeur, par exemple sur un véhicule électrique, il y a autour de 30-40% de la valeur, c'est sur les batteries.
La batterie.
Et puis ensuite, même sur la batterie, il faut voir vraiment quelles sont les composantes qui sont produites en Europe. Et donc là, le risque, malgré tout, avec ces investissements, c'est que ce soit essentiellement des usines d'assemblage, que le gros de la valeur reste produite en Chine, un peu ce que nous on faisait européens vis-à-vis de la Chine dans les années 2000, et qu'en fait ces investissements soient des portes d'entrée pour atteindre le marché chinois.
C'est très intéressant. Quoi. Ça veut dire que ces usines peuvent être simplement, que vous dites très bien, une porte d'entrée, une sorte de coquille vide qui leur permettrait simplement de pénétrer le marché européen. Hors droit de douane, mais que toute la valeur pourrait être produite en Chine.
Oui, je suis complètement d'accord avec l'analyse de Thomas, mais même dans ce cas de figure qui semble défavorable à la fin de son exposé, il ne faut pas oublier le début de l'exposé, qui est que ça reste quand même produit chez nous. Donc même si la maîtrise de la technologie ou l'essentiel de la valeur, 30 à 40%, vous l'avez dit, reste en Chine, ça veut dire qu'on en a 50 à 60 chez nous. Donc c'est quand même mieux qu'une voiture qui est fabriquée en Chine.
Oui, et exportée.
Et exportée. Donc, ça reste quand même préférable. Donc, ces investissements chinois, effectivement, il y a un autre cas que j'ai en tête, qui est tout récent, qui est dans la presse, c'est les usines Stellantis qui vont être mises à disposition des partenaires chinois de Stellantis. Et là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça évite des usines de fermer, donc ça maintient l'industrie. Et ce qui est important aussi, je pense, c'est que dans ce type de partenariat entre grands groupes, nécessairement à un moment ou à un autre, peut-être pas au début, mais il y a du transfert de techno. Et si c'est pas du transfert de techno, il y a de l'apprentissage. La vérité, c'est quoi? C'est qu'on a essayé de les faire nous-mêmes les batteries, les mêmes que les batteries chinoises. On n'y arrive pas. Il y a eu des échecs dans le nord l'Europe avec des taux de rebut qui étaient à 30%, quand c'est 3% en Chine. Quand on ne maîtrise pas le processus de fabrication, il n'y a pas que la techno, c'est le processus de fabrication. Et ce processus de fabrication, il est à l'endroit où on fabrique.
Mais c'est ce qu'ont fait les Chinois, faire venir des investisseurs étrangers pour
donc,
les copier.
Même si au début on n'a pas la techno, au moins on va apprendre, on va réapprendre à produire ces nouveaux objets qu'on ne sait pas faire. Ça prendra du temps, ça prendra 5 ans, 10 ans, mais je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle.
La réponse de Thomas et puis Jean-Marc.
Non, je suis d'accord, mais c'est quand même un pari, parce que pour l'instant, on n'arrive pas à créer des écosystèmes productifs. Ce qu'ont fait les Chinois, c'est-à-dire que quand vous attirez des investissements étrangers, ça marche si en fait les machines sont produites au niveau local, enfin si vous visez à produire si les sous-traitants sont locaux, et donc si vous arrivez à reconstruire une chaîne de valeur sur votre territoire, ce qu'ont fait de nouveau les Chinois. Ce qu'on voit, alors c'est un peu dans le vallée de la batterie, dans le nord de la France, et c'était un peu l'objectif, mais on voit que c'est très difficile, parce que notamment du fait de notre retard technologique. Et donc le risque, c'est que pour faire des transferts de technologie, les Chinois ne vont pas transférer spontanément leur technologie. Donc il faut rentrer dans un rapport de force, et ça, pour l'instant, on a beaucoup de mal à le faire. Et donc oui, à court terme, c'est une bonne nouvelle que des voitures chinoises soient produites dans des usines de Stellantis. Mais le problème aussi, c'est qu'en faisant ça, d'une part, ça va devenir des voitures chinoises et on ne maîtrisera pas forcément la technologie si on n'a pas un rapport de force qui est plus favorable. Et puis d'autre part, ça permet à ces entreprises chinoises d'accéder aussi au marché de distribution des constructeurs européens. Et pour l'instant, c'est ça qui bloque. Et
donc, ça veut dire
qu'il
faut...
On facilite aussi l'entrée de ces constructeurs, la normalisation de ces constructeurs chinois sur le marché européen.
Ça veut dire qu'il faut faire du judo, il faut être stratégique, Jean-Marc Vittori. On n'est pas capable de faire ça ?
Le savoir-faire industriel aujourd'hui, bah, c'est en Chine, clairement. Il y a 50 ans, c'était aux États-Unis. Et les Américains ont construit des usines en Europe et ça n'a pas été totalement inutile. Il y a 30 ans, c'était le Japon, ça a été évoqué. Et donc, les Japonais ont fini par construire des usines aux États-Unis, ça a été évoqué, mais aussi en France. Hein. L'usine qui produit le plus de voitures en France aujourd'hui, c'est l'usine Toyota de Valenciennes, qui a produit l'an dernier près de 300 000 voitures, plus du quart de la production française d'automobiles l'an dernier a été fait dans une usine japonaise. Et je pense que personne aujourd'hui, autour de ce plateau et plus largement en France, ne dirait « il faut absolument fermer cette usine japonaise parce que ce sont les Japonais qui maîtrisent l'organisation ». Non, moi je pense qu'il y a eu un certain nombre d'effets, il y a encore aujourd'hui un certain nombre d'effets bénéfiques du fait d'avoir une grosse usine Toyota à Onin à côté de...
Après, est-ce que les stratégies japonaises et chinoises, la culture japonaise et chinoise sont les mêmes ? On a beaucoup dit que, par exemple, les Chinois apportaient leurs propres salariés dans les usines qu'ils implantaient à l'étranger.
Regardez ce qui s'était passé quand on a ouvert Valenciennes. Il y avait plein d'ingénieurs japonais, ça a été dit. Alors, il faut
qu'ils expliquent à nos ingénieurs aussi comment ça fonctionne.
Les Chinois ne sont pas des Japonais, et on est 30 ans plus tard, et on a des stratégies d'entrisme, si je puis dire, qui peuvent être différentes. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas dire... évitons ça, fermons la porte. Ça risque d'accroître encore le déclassement industriel de l'Europe de faire ça. Je pense qu'il faut s'efforcer, au contraire, d'attirer des investissements chinois, tout en étant, en exerçant une vraie forme de vigilance. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une exigence. Alors ça, c'est très débattu en ce moment. C'est pas encore tranché au niveau européen, mais il faut qu'il y ait une exigence de contenu local. C'est absolument évident.
J'allais y venir. C'est la préférence européenne.
Il y a un certain nombre de choses. Il faut aussi renforcer un certain nombre de barrières qui sont tout à fait légitimes. Hein. Quand vous avez une taxe carbone, un mécanisme carbone aux frontières qui s'applique à l'acier mais qui s'applique pas aux voitures, vous avez un vrai problème. Enfin, voilà, il y a toute une série de mécanismes à mettre en place pour que ça marche. Et je pense que il vaut mieux jouer ça que de dire, ben non, on évite ça.
Vous, votre proposition, Thomas, c'était 30% de droits de douane. Hein.
Ouais, mais sans revenir, juste pour revenir à ce que disait Jean-Marc, que je partage, mais je dirais qu'il y a quand même une différence importante avec le modèle japonais des années 80, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie chinoise maîtrise toute la chaîne de valeur. Donc, les complémentarités avec...
Ce qui n'était pas le cas des Japonais dans les années 80.
C'était beaucoup moins le cas.
La vraie différence, c'est que c'est le changement du mode de propulsion.
L'évolution technologique de l'électrique.
Sur le moteur thermique, les Européens bossaient dessus depuis des décennies, etc. Les Japonais se sont mis, ils ont fait ça très bien. Là, sur l'électrique, les Européens ont résisté. Je pense qu'ils ont une part de responsabilité, les constructeurs automobiles ont résisté à l'électrique. Ils ont essayé de reporter les normes sans arrêt pendant que les Chinois investissaient massivement dans l'électrique. Donc là, c'est vrai qu'il y a une vraie différence, c'est qu'ils maîtrisent la batterie.
Et l'autre différence, on a parlé de la Hongrie, ce qu'il faut voir aussi, c'est le rôle des pays passerelles, c'est-à-dire des pays qui sont la Turquie, le Maroc, ce sont tous des pays qui ont des formes d'accords de libre-échange avec l'Union européenne. Et donc là, il y a véritablement un risque d'une stratégie de cheval de Troie. C'est-à-dire que vous mettez une usine en Turquie, vous mettez une usine au Maroc, et ça permet ensuite de réexporter ces voitures sur le marché européen, alors que les normes sociales, les normes environnementales ne sont pas les mêmes dans ces pays. Donc là, il y a véritablement...
C'est un phénomène qu'on observe d'ores et déjà ou pas ?
Oui, c'est quand on regarde les investissements chinois, il y a une part 25%. En gros, qui sont dans ces pays passerelles. Donc, c'est très significatif. Et le risque, c'est quand même une division des Européens. C'est-à-dire qu'on va faire la course pour essayer d'attirer ces investissements chinois, parce qu'en effet, il vaut mieux que l'usine soit dans le nord de la France, du point de vue français, qu'en Hongrie, ou a fortiori au Maroc. Mais donc ça veut dire aussi une stratégie non coopérative entre Européens, et ça veut dire aussi que des pays comme l'Espagne, comme la Hongrie, vont essayer de bloquer toutes sortes de stratégies un peu plus défensives au niveau européen, parce qu'en fait, si vous avez une stratégie plus coopérative avec les Chinois, ben vous pouvez, ben c'est une façon d'attirer les investissements.
On a déjà connu ça avec Obor, hein, One Belt One Road, les routes de la soie, il y a une dizaine d'années.
Oui.
On n'a pas tiré de leçons depuis
On a tiré des leçons, notamment sur tout ce qui va concerner la souveraineté, on n'en a pas encore parlé. On a parlé du cas de figure.
On a durci le ton quand même, hein.
Oui, on a durci
le ton. Pour le contrôle des investissements étrangers, en fait, en France en tout cas.
Encore une fois, s'il s'agit de produire des voitures chinoises, enfin, d'un constructeur chinois, soyons précis, d'un constructeur chinois en Europe, c'est mieux que ce soit construit en Chine. S'il s'agit de racheter des entreprises en Europe, de prendre les brevets, et de garder la production en Chine, c'est pas bon, parce que derrière les investissements, il peut y avoir ça. Donc, c'est sur ce point-là que vous avez, je crois, mentionné là à l'instant, qu'il faut être particulièrement vigilant, et on l'est. Et je voudrais rebondir sur un autre propos de Thomas, qui est l'écosystème autour. C'est vrai que la stratégie chinoise, elle a fonctionné il y a 20 ans, parce que dans les coopérations avec les grands groupes européens et américains qui sont allés en Chine, il y avait un écosystème de PME qui s'est constitué tout autour de ces grands groupes. Nous, il faut qu'on continue d'investir dans l'innovation, dans les nouvelles technologies, et,
oui.
Et on ne peut pas se contenter d'assembler des voitures. Ça ne suffira pas.
Bon, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Jean-Marc Vittori, Philippe Mutrici, Thomas Grébin, pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business et toutes les plateformes de diffusion.